À l'autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. Un autre, des actes miraculeux. Un autre, il est donné de prophétiser. Un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un, est donné de s'exprimer dans des langues inconnues. Un autre, d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Et enfin, au verset 28 à 31, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Puis viennent les miracles, les dons de la grâce, sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'Église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous le parlent-ils des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous expliquer l'approche par excellence. J'ai quand même donné trois points à cette prédication. Le premier étant que Dieu se manifeste avec générosité. Ensuite, Dieu se manifeste avec profusion. Et enfin, Dieu se manifeste avec souveraineté. D'abord avec générosité. Et avant de nous pencher sur le détail des dons, on doit d'abord constater que les dons sont issus de la grâce de Dieu. Dieu nous accorde les dons dans sa grâce. Et quand on sait que la grâce de Dieu, elle est infinie, ben ça nous donne une idée de ce que peuvent être les dons issus de la grâce. Ici, dans cette version, il dit les dons de la grâce. Cette grâce de Dieu, elle ne se limite pas seulement à l'Église. Elle ne se limite pas seulement à ses enfants. La grâce de Dieu, nous dit Jésus, notamment en Matthieu 5, 45, la grâce de Dieu, elle s'étend à tous les hommes. Dieu est bon, il est bienveillant, nous dit Jésus, envers les bons comme envers les injustes. Et c'est ce qu'on appelle la grâce générale de Dieu. Et il est très facile de vérifier que Dieu a donné toutes sortes de dons à toutes sortes de personnes dans ce monde, qu'ils soient croyants ou incroyants, qu'ils soient bons ou injustes. Denis nous parlait ce matin de Maria Callas, de qui? Pavarotti? Pavarotti, moi j'ai pas l'accent, hein. J'en ai un autre, mais bon, il n'y a pas de chanteur connu, hein. Voilà. Et on apprécie, n'est-ce pas, les dons que ces personnes ont reçus. Alors c'est travaillé, hein. Quand Denis disait ça, il dit on chante pas pareil, j'ai dit ben c'est du boulot, hein. Ils ont travaillé, ils avaient une belle voix au début, ils avaient un don, ils l'ont travaillé. Alors qui n'a jamais été émerveillé par la création? Alors j'utilise un masculin général, hein, mais comprenez aussi d'une, hein. Voilà, quand je dis un peintre, c'est une peintre aussi, hein. Quand je dis un poète, c'est une poétesse. Parce que les dames ont reçu des dons, enfin, parfois plus, hein. En tout cas, elles sont capables d'en mettre plusieurs en œuvre, hein. Nous, on est capables d'en mettre un seul à la fois. Mais les dames sont capables de mettre plusieurs dons en œuvre à la fois. Je vois des têtes qui... Tout le monde n'est pas entièrement d'accord avec ça, mais enfin bref. C'est un cliché. Un compositeur qui n'a jamais été émerveillé par... Vous écoutez des compositions comme la sixième de Beethoven, c'est la pastorale, c'est extraordinaire, quoi. Et que vous soyez un fan de musique classique ou pas, enfin, je sais pas, voilà. D'un réalisateur, d'un chercheur, d'un ingénieur. J'en passe, hein, parce que c'est illimité. Et des gens qui ne connaissent pas forcément Dieu, des gens même qui peuvent militer contre Dieu, à qui Dieu fait cette grâce. Et qui, soyez honnêtes, hein, rendent nos vies plus belles, plus confortables, plus agréables. On pourrait même se demander, parfois, si la richesse des dons n'est pas supérieure dans le monde que dans l'Église. Cette richesse de Dieu, la richesse de ses dons, la richesse de sa grâce qui se manifeste ainsi, paraît illimitée. Mais s'il y a une grâce générale de Dieu, il y a aussi une grâce particulière. Et cette grâce particulière, elle se manifeste envers les enfants de Dieu. Elle se manifeste d'abord par le salut. Et c'est la grâce la plus grande que Dieu fait aux hommes. Il leur accorde le pardon, il leur accorde le salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas de don plus grand et plus important que celui-là. Dieu sauve. Il fait naître, comme l'a souligné Denis si justement ce matin, à une vie nouvelle, une vie différente. Ensuite, Dieu donne des dons. Il se manifeste au travers de celles et de ceux qu'il sauve. Alors ces dons, c'est une question classique. Est-ce qu'ils sont naturels ou est-ce qu'ils sont spirituels? Grande question. Comme nous l'avons remarqué, les commentateurs remarquent aussi que tous les hommes reçoivent des dons. Alors d'abord, ce sont des dons naturels. Mais ils deviennent spirituels par la manière dont nous les mettons en œuvre. C'est notre manière de nous en servir qui est déterminante. On peut s'en servir pour le bien de l'Église. On peut s'en servir pour l'édification des frères et sœurs. On peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Ou alors, on peut se servir de nos dons pour notre propre profit et pour notre gloire personnelle. Il y a assez de gens dans le monde qui se vantent de leurs dons comme s'ils en étaient les auteurs. Mais la parole de Dieu dit pourquoi tu te glorifies? Pourquoi tu te glorifies des choses comme si elles étaient à toi? Tout ce que tu l'as reçu de la part de Dieu. Mais on peut aussi constater que Dieu donne de manière surnaturelle un don à quelqu'un dans une situation particulière ou pour un ministère particulier. Et je me souviens de cette personne qui me disait, voilà, j'ai été invité à... Je faisais une conférence quelque part, hein, c'était un itinérant, je faisais une conférence quelque part et on l'a invité à aller au chevet d'une personne qui était mourante. Il ne savait même pas parler sa langue. Elle a dit, voilà, j'ai accepté. Hein. Je me suis dit, Seigneur, je me remets à ta grâce pour parler à cette personne. Il est arrivé auprès du lit de cette personne, il lui a parlé, il a dit, j'ai parlé, je ne comprenais même pas ce que je disais. Je lui ai parlé une langue que je ne comprenais pas, mais que cette personne comprenait. Et elle s'est donnée au Seigneur. Je n'ai plus jamais reparlé cette langue. Le Seigneur peut donner. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Hein. C'est pas une que je vous cite. Ce cas précis, mais j'ai entendu ça plusieurs fois, où il a été donné à des personnes de parler à d'autres personnes dans des langues comme Pierre, au moment de la Pentecôte, pour leur dire, mais voilà, pour les conduire au salut que Dieu donne. Alors oui, spirituel, oui, là, c'est arrivé une fois dans Dieu s'est servi de cette personne pour amener une autre personne à la foi de manière surnaturelle. Alors Dieu utilise tous nos dons naturels, ce qu'on appelle naturel, je suis né avec ça, et nos dons spirituels. Dieu donne avec une grande générosité et on constate que Dieu n'est pas avare. Dieu n'est pas avare, il est généreux. Il donne à tous, certains même ont plusieurs dons. Et je repensais ce matin à un ancien collègue et je me disais, on était ensemble à l'institut et je me disais, ce gars il a tellement de dons. Si lui on l'appelle pasteur, moi j'ai pas le droit d'être appelé du même nom. Tellement il est doué dans ce qu'il fait. Et il y en a qui reçoivent plusieurs dons et d'autres, comme moi, qui en reçoivent peu. Dieu se manifeste avec profusion. Et Paul cite là une belle liste de dons. C'est quoi ces dons? Alors, on n'est pas dans une étude biblique et je ne vais pas prendre un quart d'heure sur chaque don pour en expliquer tous les tenants, les aboutissants, ce que pensent tous les commentateurs de tous les bords, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ou en passant par le centre de l'aile évangélique. Des plus charismatiques aux plus traditionalistes, rigoristes, on n'aura pas le temps de faire ça ce matin. Hein. Mais simplement, on va essayer d'avoir une idée de ce que sont ces dons. Une parole de sagesse, on a quand même l'intuition de ce que ça peut être, n'est-ce pas? C'est la capacité que Dieu accorde de faire le meilleur usage des connaissances possédées dans des situations particulières et parfois épineuses. Quand on est en face d'un problème, hein, particulièrement en église, on se pose une question, ou dans un groupe, ou au sein du conseil d'administration, ou je ne sais, et on se pose une question, et d'un seul coup, le Seigneur éclaire un frère, une sœur, pour nous dire, voilà, quelque chose qui va simplement débloquer, éclairer la situation. Dieu donne une parole de sagesse. Alors, il y a des sages dans le monde, hein, des gens qui disent des choses sages, mais ça peut arriver que Dieu donne par l'un ou l'autre frère, parfois par la personne qu'on n'attendrait pas, hein, cette parole de sagesse. Une parole de connaissance. Ah, là, si pour la sagesse on était plus ou moins d'accord ensemble, pour la parole de connaissance, on va déjà diviser l'assistance en plusieurs catégories. Ceux qui pensent que, voilà, c'est une révélation particulière que Dieu donne à un moment donné sur une personne. Voilà, il y a ce matin quelqu'un parmi nous qui vit telle et telle situation, Dieu lui dit, voilà, c'est une parole de, c'est compris comme une parole de connaissance. Mais d'autres pensent que c'est en relation avec l'Écriture, que c'est une connaissance que Dieu donne de son Écriture, l'interprétation de sa parole, une interprétation que, voilà, on est sur un texte difficile, épineux, il n'y en a pas beaucoup dans l'Écriture, hein, qui sont, hein, voilà. Et donc, où le Seigneur, il éclaire, hein, au moment opportun, il éclaire. Alors, voilà, les interprétations sont variables, hein, j'en ai vu faire comme ça et comme ça. Bon, voilà, peut-être on tombera pas d'accord sur ce don-là. Mais en tout cas, le Seigneur, qui connaît tout, peut nous éclairer dans diverses situations et divers domaines. La foi particulière, c'est pas la foi qui sauve. La foi qu'on place dans le Seigneur Jésus, c'est une foi, une conviction forte que dans une certaine situation, Dieu va agir. L'illustration la plus fréquente et la plus forte est celle de Georges Müller, qui était capable avec les enfants de se mettre à table, rien dans le frigo, rien dans les placards, et de remercier Dieu pour la nourriture devant des assiettes vides. Et alors que la prière se finit, ça frappe à la porte et voilà la nourriture qui arrive. Ça, c'est une démarche de foi, n'est-ce pas? C'est une démarche de foi. Le don de guérison. Alors là aussi, on est un peu comme dans la parole de sagesse et dans la parole de connaissance. Alors dans le grec, il est dit « des dons, des guérisons ». Voilà comment que c'est interprété en général. Chaque guérison est un don particulier. Ou autrement dit, ce texte ne fait pas référence à des guérisseurs, mais à des situations où, au travers de frères, de sœurs, Dieu guérit. Alors, c'est quand même à mettre en perspective, parce que Jésus, oui, il était fils de Dieu, mais quand même, il a guéri pas mal de monde, n'est-ce pas? Mais après lui, on a eu Pierre, qui, en se promenant dans la ville, on mettait les gens de telle manière à que quand il passe, son ombre les couvre et qu'il soit guéri. À Paul, ça avait l'air d'être fréquent, régulier. À Paul, où on essayait d'avoir un linge, un morceau de tissu qu'il avait touché pour l'appliquer aux personnes, et elles étaient guéries. Aux apôtres, hein, où il est dit que voilà, ils avaient le don, entre autres, de guérir les malades. Donc Dieu peut accorder ce don de guérison à quelqu'un, mais soyez encouragés, dans certaines situations, Dieu peut accorder cette guérison au travers de vous ou de moi. Les actes miraculeux. Ce sont probablement les choses, les dons les plus rares dans l'Écriture. Alors, probablement, ce sont ceux qui marquent le plus les esprits, hein. Peut-être vous avez des fois envie de changer l'eau en vin. Ou quand vous avez la tempête qui souffle, hein, de sortir et de dire « Bon, ça suffit, tais-toi !» Ou d'autres miracles, hein, comme ils s'en sont passés dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, hein, de voir les chaînes tomber de vos pieds. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont été en prison pour leur foi ici, mais... Ou devoir de faire surnager le manche d'un outil cassé ou le fer d'un outil cassé ou de rendre une soupe empoisonnée comestible ou il y a eu toutes sortes de signes miraculeux ou d'attirer les mouches sur un pays qui ne craint pas Dieu. Si Dieu devait traiter tous les pays qui ne craignent pas et tous les dirigeants qui ne croient pas en lui de la même manière qu'il a traité l'Égypte, ça se passerait mal sur Terre. Hein. Ce serait catastrophe sur catastrophe. Hein. Ce serait catastrophe sur catastrophe. Ou si on devait se servir des signes miraculeux pour juste améliorer notre petite vie de confort. Hein. Quand j'étais enfant, on avait un petit disque là avec des contes dessus. On avait toute une série de disques. Il y en avait un notamment concernant Aladdin et la lampe merveilleuse. Hein. Alors après toutes ses aventures à Aladdin, il avait l'habitude de frotter sa lampe pour demander négligemment à son génie. Aladdin, génie, le souper pour deux personnes. Une fois qu'il était installé avec sa belle princesse, hein, le génie, il était juste bon pour servir la soupe le soir. Hein. Et il ne faudrait pas que Dieu soit juste bon pour nous servir la soupe. Les actes miraculeux, ce n'est pas pour notre confort ou pour épater la galerie. On voit que dans l'Écriture, le miracle est utilisé, ces signes miraculeux sont utilisés comme des signes de la part de Dieu. Et si on regarde de près, on se rend compte que dans l'Écriture, il y a quatre grandes périodes de signes miraculeux. Le premier, bien sûr, c'est l'Exode en Égypte, hein, où Dieu va se manifester de manière extraordinaire pour démontrer à tous les peuples, à Pharaon en particulier, à l'Égypte, que Israël est désormais le peuple sur lequel il a mis son nom, il a fait son choix, Israël est mon peuple. La deuxième période où on va voir des signes miraculeux se répéter, c'est la période des prophètes avec Élie et Élisée. Et ces miracles sont un signe que Dieu a placé son sceau sur l'institution des prophètes, alors que la corruption s'est emparée des rois et des sacrificateurs. Alors parfois on aimerait, comme Élie, hein, faire tomber le feu du ciel. Mais voilà, Jésus a dit à Jean, hein, tu sais pas ce que tu demandes, hein, faire descendre le feu du ciel, et c'est pas ce que Dieu veut. Jésus, ensuite, a accompli beaucoup de miracles. Au point, nous dit Marc, que les gens se jetaient sur lui pour être guéris. Il devait un petit peu je sais pas s'il devait faire un cordon autour de lui, hein, les disciples, il a choisi les 12 pour le protéger, hein, 12 costauds pour le tenir un petit peu, voilà. A demandé à l'un d'eux, procure-moi une barque quand je parle avec les gens qui puissent me mettre un petit peu éloigné d'eux, là, qui se jettent pas sur moi. Ils pouvaient plus entrer dans les villes, les villages. Enfin, c'était, voilà. Sa notoriété était devenue telle que les gens voulaient tous être au bénéfice. Et acte 2, 22, dans son discours, Pierre dit que Dieu lui rend témoignage par ses miracles qu'il est l'envoyé de Dieu. Enfin, on voit dans l'Église primitive, et en particulier par les apôtres, hein, Dieu montre qu'il est désormais à l'œuvre dans cette institution nouvelle. Et voici les quatre grandes périodes de signes miraculeux de la part de Dieu. Et on se rend compte que chacune de ces périodes, dans chacune de ces périodes, Dieu est à l'œuvre pour montrer, pour démontrer quelque chose à l'humanité. Mais on doit se rendre à l'évidence que Dieu ne travaille pas que par le miraculeux. Et d'autre part, on doit aussi se rendre compte que le miraculeux n'est pas le signe certain de l'œuvre de Dieu. Alors on n'a pas tous été dans des lieux où il se passe des choses un petit peu que l'on qualifierait de bizarres. Moi j'ai vécu 2 ans au Bénin et j'étais interloqué quand les gars avec lesquels je travaillais au garage, hein, ils sortaient du village et me disaient « Purée, la nuit, il se passe des trucs dans le village, c'est incroyable hein. ». Tu sors, purée, t'as des boules de feu qui se déplacent dans les sommets des arbres. T'as le bâton du sorcier qui passe dans le village en sifflant et en clignotant. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Le miraculeux n'est pas que l'œuvre de Dieu. Et les commentateurs disent, mais voilà, en dehors de l'Église, il y a des gens qui sont capables de parler en langue, il y a des gens qui sont capables de guérir de manière surnaturelle, il y a des gens qui sont capables d'accomplir des prodiges, des miracles, des choses qui, voilà, sont par un pouvoir différent de celui de Dieu. Donc attention, ce signe miraculeux ne sont pas un signe certain de l'œuvre de Dieu. Un autre don qui nous pose question, le don de la prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est, alors, de manière générale, hein, dans le langage populaire, un prophète, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. C'est quelqu'un qui va te dire ce qui va se passer demain. Mais selon l'Écriture, prophétiser, c'est plutôt édifier, exhorter, consoler, instruire les frères et sœurs. Ça peut être aussi d'appliquer la parole à Dieu dans une situation particulière. Alors parfois, ça se confond avec l'idée de la parole de connaissance. Hein. Je me souviens d'un coup, on était en train de prier au Bénin. On avait tous les premiers jeudis du mois, on avait une journée de prière et de jeûne. On passait la journée à prier, on ne faisait rien d'autre. On se réunissait dès le matin et on priait toute la journée. Et ce jeudi-là, on priait pour deux situations parmi les missionnaires. Un qui revenait de congé et qui cherchait un logement. Il voulait travailler. Voilà, il avait reçu de Dieu le fardeau pour travailler parmi les musulmans. Il cherchait une maison au sein des quartiers musulmans pour pouvoir parler, vivre parmi eux, pour pouvoir non seulement parler, mais aussi montrer par sa vie, accueillir dans sa maison, etc. Et un autre missionnaire dont l'épouse était malade, il ne s'en sortait pas, si ça ne s'améliorait pas. Voilà, il cherchait absolument à obtenir, « Seigneur, guéris mon épouse. » Sinon, voilà, notre ministère va être remis en question. Et pendant qu'on était là en prière, qu'on réfléchissait, et que voilà, on disait, il faut prier vraiment pour la guérison de ses sœurs, il faut vraiment prier pour ce frère qui cherchait une maison. On nous disait, mais c'est comme une montagne devant nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Et pendant qu'on était là en prière, le Seigneur me montre par le texte de Zacharie, voilà, tu es cette montagne, tu seras aplanie. Et dans le même ordre d'idées, il me montre dans la prière que voilà, cette sœur, elle va devoir vivre avec sa maladie. Mais vous savez, j'étais le petit mécanicien parmi les pasteurs. J'ai osé rien dire et j'ai dû m'humilier après devant le Seigneur. Hein. Mais il arrive que le Seigneur vous révèle, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais accomplir. Et ça s'est exactement passé de cette manière. Mais on reviendra, quand on abordera le chapitre 14, on reviendra plus longuement et plus en détail sur cette question de prophétie. Discernement des esprits. Alors, selon l'interprétation commune, c'est être capable de distinguer entre les manifestations de l'Esprit de Dieu et les manifestations de l'Esprit du diable ou des démons. Parfois, on associe ce don de discernement des esprits à l'intuition concernant les personnes. Les langues inconnues. La grande question, c'est, est-ce qu'on parle des langues terrestres ou est-ce qu'on parle des langues célestes? Est-ce qu'on parle le langage des hommes ou on parle le langage des anges? Ah, peut-être l'idée des anges ne serait pas venue si Paul ne disait pas un petit peu plus loin, et si je parlais le langage des anges. Alors, est-ce qu'on a besoin de parler le langage des anges? Alors, d'un point de vue strictement exégétique, le langage des anges peut être compris dans ce passage. Langue inconnue, ça peut vouloir dire un langage qui n'est pas terrestre, qui n'est pas de notre... Mais on voit que l'usage des langues est particulièrement utile au moment de la Pentecôte. Hein. Il y a d'autres moments, certainement. Je vous en ai cité un exemple tout à l'heure, où Dieu peut parler à des personnes dans la langue qui est la leur, pour qu'ils puissent comprendre. Alors, on reviendra aussi sur cette question au chapitre 14, puisque le chapitre 14 va traiter en particulier de ces deux dons, le don de prophétie et le don de parler diverses langues. Et puis évidemment, l'interprétation des langues inconnues, hein, je pourrais vous prêcher en alsacien ce matin, si quelqu'un était capable de l'interpréter. Et il y a des gens qui sont vraiment doués, hein. Vous avez probablement déjà entendu cela. En tout cas, Florent Varac a déjà été introduit de cette manière-là quand il fait la traduction pendant les séminaires à l'IBG. Qui traduit qui? Et je me souviens, quand j'étais enfant, hein, l'église baptiste de Mulhouse réunissait toutes les églises. Il faisait venir un enseignant britannique, un monsieur Jenkins. Et puis, il y avait un frère qui le traduisait. Tu ne savais pas lequel des deux prêchait. Hein. Celui qui n'était pas averti, il ne savait pas lequel des deux prêchait. Il était tellement animé
par l'esprit, par le message, que voilà, c'était pas la traduction plate et sans saveur. Hein, c'était le gars, il vivait ce qu'il disait, il l'interprétait vraiment avec avec puissance. Hein. Le don d'aide ou de secours, c'est la capacité de mettre des choses en œuvre pour venir à l'aide ou au secours de personnes. Et on a eu un témoignage à ce sujet dans l'église il n'y a pas si longtemps, hein, c'est Bernard, le père de Rémi, c'est Bernard, hein, hein, qui nous a témoigné ici que voilà, retraité de la SNCF d'un seul coup, il a été attiré, conduit à aider Massoud et quelques-uns de ses compatriotes, hein, des choses qu'il n'avait jamais fait, il ne savait pas écrire, il a commencé à écrire je ne sais pas qui, au ministère, voilà, et le Seigneur lui a mis ça à cœur, et puis voilà, ça a abouti, un don que le Seigneur lui a donné. On a vu le don de direction aussi, hein, capable de diriger, d'animer, d'organiser. Alors, la question qui se pose suite à cette liste, c'est est-ce que cette liste, elle est exhaustive? Est-ce que Paul, ici, fait le détail de tous les dons possibles? Voilà, vous avez une liste, vous pouvez choisir, hein, ou vous pouvez reconnaître votre don dans cette liste. Ça me fait penser au bouquin de Schwartz, enfin, au questionnaire que je vous ai fait parvenir, hein. Voilà, vous avez une liste de dons, là, et dans cette liste, vous devez trouver le don qui est, ou les dons qui sont les vôtres. Est-ce qu'il existe d'autres dons? Alors, il existe dans l'Écriture d'autres listes de dons. Alors ici, on est dans 1 Corinthiens 12 qui a été écrit en 55-56 après Jésus-Christ. Vous voyez la richesse de la liste. Plus tard, Paul écrit dans Romains en 58 et il ne cite plus que 6 dons. Il va réécrire une liste en 62 dans Éphésiens, il n'y aura plus que 4 dons. Il va écrire en 1 Pierre 4, 10 et 11, va écrire en 64 et il va citer 2 dons. Est-ce que ça veut dire que les dons ont disparu? Non, non, non. Mais on constate quand même que les listes sont de plus en plus courtes et que la formulation dans ces listes est de plus en plus générale. On voit que cette liste, elle est très détaillée et au fur et à mesure, on se rend compte que les dons sont cités de manière de plus en plus générale. Et on constate aussi que les dons dits miraculeux ne sont cités que dans 1 Corinthiens 12. Alors en fait, Paul, ici, ne fait que citer des exemples de dons. Il ne veut pas en citer que 2-3. Il veut effectivement démontrer cette profusion, cette richesse. Et on peut, sans difficulté, on pourrait rajouter d'autres dons à ceux qui sont, à ceux qui ont été cités. Vous avez des exemples? Alors, je ne vais pas vous faire. Je vous en cite un, par exemple, hein, qui est présent dans l'Écriture. C'est le don de gestion, d'être un bon gestionnaire, un bon intendant. Une chose sur laquelle Jésus va revenir plusieurs fois, hein, dans ses discours et dans ses paraboles. Et pourtant, on ne la trouve pas. C'est un don qu'on ne trouve pas dans le don que Paul cite. Hein. Voilà. Les dons sont à l'image de la sagesse et de la grâce de Dieu. Infiniment riches, infiniment variés. Alors on peut se poser la question, est-ce que ces dons sont... Je vous pose beaucoup de questions ce matin, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu une prédication à laquelle j'essaie de répondre aux questions. Est-ce qu'ils sont permanents ou est-ce qu'ils sont ponctuels? Alors à titre individuel, est-ce que quand tu reçois un don, il est permanent ou il est ponctuel? Ben les deux. Il y a des dons que tu reçois de manière permanente. Si tu chantes bien, j'espère que tu vas chanter bien toute ta vie, sauf si tu as un accident au niveau de la voix, une extinction ou je ne sais pas, un accident ou une maladie qui abîme tes cordes vocales. Mais en principe, si tu chantes bien, tu chantes bien. Si tu sais bien jouer du piano, tu joueras bien du piano. Si tu es un bon gestionnaire, tu seras un bon gestionnaire. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres dons qui sont donnés de manière ponctuelle. Don de la foi. Don de guérison. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Où Dieu peut te donner ça à un moment où l'Église ou celui qui est près de toi en a besoin. Alors, derrière cette question s'en cache une autre. Est-ce que c'était ponctuel? Est-ce que c'était limité au temps de l'Église apostolique? Ou est-ce que ces dons ils sont valables pour toute l'histoire de l'Église? Alors là, on va faire une nouvelle division. Enfin, je ne sais pas comment elle se... Ça peut peut-être être une ligne qui va... Hein? Alors... C'est pas nécessaire d'être dogmatique dans ce domaine. C'est pas nécessaire d'être fermé. Parce que le risque, si tu es dogmatique ou fermé, c'est que tu risques de devenir incrédule. Et la Bible nous montre qu'il y a deux risques d'incrédulité par rapport aux manifestations de l'Esprit. D'abord, celle de ne pas croire que Dieu peut accomplir des miracles. Quand tu pries pour un frère ou une sœur malade, est-ce que tu pries en croyant que Dieu peut le guérir? Ou est-ce que c'est juste une... ça te soulage juste la conscience, là, tu dis j'en parle à Dieu, ça soulage ma conscience, voilà j'ai fait mon devoir, j'ai prié pour lui. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut le guérir ou pas? Ou alors elle sert à quoi ta prière? L'autre risque de l'incrédulité, c'est le risque, comme Thomas, de ne pas croire sans voir où, comme les pharisiens plus précisément, hein, à qui Jésus fait le reproche de ne vouloir que des miracles. Finalement, il ne voulait pas croire, il voulait juste le sensationnel. On constate. Donc la question n'est pas, la question reste ouverte. Hein. Dieu a donné des dons particuliers au début, et on va le voir dans le point suivant. Mais ces dons restent toujours disponibles. Dieu ne fait pas moins. Peut-être suivant les endroits, suivant les lieux. Je vais vous le dire, j'étais 2 ans au Bénin. J'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécues ici. Parce que le besoin là-bas était différent du besoin d'ici. Alors on constate une grande profusion de dons donnés par Dieu dans toutes sortes de domaines, en réponse à toutes sortes de besoins. Et pas seulement des besoins élémentaires, hein, des besoins de subsistance ou des besoins spirituels. Mais on doit aussi remarquer que Dieu se manifeste avec souveraineté. Et quand on dit que Dieu se manifeste avec souveraineté, il accorde ses dons comme il veut. Il les accorde à qui il veut, il les accorde quand il veut. Et on constate que Dieu a donné des personnes qualifiées comme dons à l'Église. Et c'est assez surprenant de constater... Dans ce passage uniquement, Dieu a donné premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des enseignants, et puis après, il y a un ensemble de dons qui sont cités, mais là, on ne sait pas s'ils sont cités par ordre d'importance ou pas, ou par ordre chronologique ou pas, parce que la question qui est posée là, c'est est-ce que ces dons sont classés par ordre d'importance? 1, 2, 3, ça veut dire du plus important au moins important? Ou comme d'autres pensent, que c'est chronologique. Dieu a donné d'abord, dans la chronologie, il a d'abord donné des apôtres, ensuite il a donné des anciens, des prophètes, ensuite il a donné des enseignants, et puis après le reste, ça a suivi. La question reste ouverte. Mais d'abord penchons-nous sur ces dons, sur ces dons ministères. Il y en a qui appellent ça des ministères, hein, qui veulent les distinguer, mais Éphésiens dit que Jésus étant monté dans le hauteur, il a fait des captifs, il a ramené des dons aux hommes, et après qu'est-ce qu'il a? Il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs. Enfin, on a à peu près la même liste. Les apôtres. Les apôtres sont des envoyés. Dans le sens du début de l'Église, ce sont les témoins directs de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus. Ce sont ceux qui ont été appelés personnellement par Jésus. Il leur a donné puissance, on l'a vu tout à l'heure, hein, de guérir, mais aussi de chasser les mauvais esprits des démons. Il les envoya, il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Ils reçoivent le dépôt de la saine doctrine et constituent avec les prophètes le fondement de l'Église dont Jésus est la pierre angulaire. Et dans ce sens-là, les apôtres sont uniques. Ils sont 12, la liste est close. Dans ce sens-là d'apôtres, il n'y en aura pas d'autres. Néanmoins, les apôtres eux-mêmes, et Paul en particulier, élargit le sens, l'appellation apôtre dès le début à d'autres collaborateurs qui sont envoyés par eux dans diverses églises pour différentes missions. Par exemple, dans Romains 16, 7, où il dit, voilà, j'ai envoyé un tel, qui sont des apôtres fidèles. Alors, d'autres versions disent qu'ils sont reconnus par les apôtres pour être fidèles. Alors, après, c'est une question de traduction et d'interprétation. Mais on voit très bien que ce sens d'envoyer, de personne qui a une mission particulière, est employé de manière assez décontractée, assez libre, par les apôtres. Et donc, ils ne disent pas, attention, hein, nous, on est les seuls apôtres, on a personne d'autre a le droit de porter ce nom. Et aujourd'hui, on l'attribue assez, alors pas volontiers, parce que, voilà, dans certains milieux, on aime bien, voilà, des gens qui se présentent, voilà, je suis l'apôtre un tel, je suis, ceux que ça regarde, hein, les autoproclamés, Paul en parle aussi, hein, dans les Écritures, mais ceux qui sont envoyés, Habituellement, on l'attribue à des personnes qui ont sous leur coupe plusieurs églises. On dit, voilà, ils ont un ministère d'apôtre. C'est comme ça que c'est interprété aujourd'hui. Ensuite, les prophètes. Ensuite, les enseignants. Les prophètes, on en a parlé, on en a reparlé. Les enseignants, ben, c'est assez clair. C'est ceux qui sont qualifiés, qui ont le don pour enseigner. Et puis, voilà. Alors, au début de l'Église, quels sont les textes fondamentaux que l'Église possédait? L'Ancien Testament. Alors c'était déjà pas mal, hein. Parce que si on voit sur le chemin d'Emmaüs, hein, Jésus qui marche avec les disciples et qui leur fait une étude biblique à laquelle je pense que la plupart de nous on aurait aimé participer, et commençant par les Moïse et les prophètes, il leur enseigna dans l'Écriture tout ce qui le concernait. Ça avait l'air d'être suffisamment riche pour les affermir dans leur foi et pour leur donner envie de revenir et de raconter tout ça aux apôtres, hein. Mais il y a des églises qui sont nées un petit peu partout dans l'Empire. Et ces dons se sont montrés indispensables pour l'affermissement et la croissance de l'Église dans la saine doctrine. Parce que même temps que l'Église naissait et grandissait, il y a des fausses doctrines qui essayaient de s'infiltrer. Et on voit partout, dans toutes les épîtres, les apôtres faire barrage aux fausses doctrines qui veulent entrer dans l'Église. La nécessité de respecter la loi. Vous êtes chrétien, vous devez vous faire circoncire et vous devez respecter toutes les règles alimentaires du judaïsme. Et puis ailleurs, c'est le gnosticisme. Hein. Vous savez, le corps et l'esprit sont séparés. Avec le corps, tu peux faire n'importe quoi pourvu que ton esprit reste tourné vers Dieu. Le corps, c'est le siège du mal. L'esprit, c'est le siège du bien. Enfin, il y a eu toutes sortes d'idées qui ont commencé à se répandre dans l'Église, qui venaient de la philosophie environnante. Et les apôtres ont eu besoin de faire barrage. Alors, par des lettres, par des courriers, mais aussi par les dons que Dieu a donnés. Des apôtres, des envoyés, des prophètes, des enseignants. Et puis, toutes sortes d'autres dons pour maintenir l'Église dans la saine doctrine, dans l'Évangile tel qu'il a été donné par Jésus-Christ et par les apôtres, puisqu'ils sont devenus le fondement, avec les prophètes, hein, avec les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres sont devenus le fondement de l'Église. Et donc l'apôtre conclut, aspirez aux dons les meilleurs. C'est quoi les dons les meilleurs? C'est le don qui nous mettra le plus en vue dans l'Église. C'est celui qui nous attirera le plus de prestige, d'influence ou de pouvoir. En général, c'est ce qu'on cherche. Hein. Enfin, c'est ce que la nature humaine cherche. En tout cas, c'est ce que les gens dans ce monde cherchent. Ils utilisent leur don pour qu'on flatte leur ego. Dans l'Église, il n'en est pas de même. Le don le meilleur, le don que nous devons rechercher, c'est celui par lequel nous serons le plus en mesure d'aider l'Église à grandir et à s'affermir. Ça, c'est le don le meilleur pour chacun d'entre nous. Celui que Dieu t'a confié pour aider l'Église à grandir, à s'affermir, à s'épanouir. Alors, j'ai été trop long, mais si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Si vous voulez contester ce que j'ai dit, alors je ne peux pas être complet, hein, dans un temps aussi court, mais je reste disponible pour les questions. Alors, le fait que Dieu soit généreux dans ses dons, qu'il les accorde avec profusion, qu'il soit souverain. Il ne s'est pas trompé. Le fait que Dieu soit souverain, ça veut dire qu'il ne s'est pas non plus trompé dans le don qu'il t'a accordé. Moi, très longtemps, j'ai reculé. Hein. Très longtemps, j'ai reculé devant le don que Dieu m'a accordé. Quand j'étais jeune adulte, les gens m'ont dit, Marc, il faut absolument que tu ailles en institut pour te former, de toute évidence. Il faudrait que tu deviennes pasteur. J'ai dit, ça va pas ou quoi? C'est pas bien. Il a fallu que le Seigneur me traîne jusqu'au Bénin. Et voilà, pour après la première. Et je suis allé en institut, mais même pas pour ça. Hein. Je voulais juste retourner en Afrique. Je voulais juste retourner auprès de ce ministère en Afrique jusqu'à ce que le Seigneur me place devant le truc. De toute évidence, Marc, je t'ai appelé pour. Dieu ne se trompe pas, il est souverain, il ne se trompe pas dans le don qu'il t'a confié, il ne s'est pas trompé. Et s'il t'appelle, fais cette démarche de foi, suis-le. Il ne se trompe pas, il est souverain. Alors c'est un appel à ne pas laisser nos dons inutilisés, mais de nous mettre à l'œuvre pour le bien de tous et surtout pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'Église, de nos frères et sœurs, et pour la gloire de Dieu. Alors, il va se passer quelque chose de surnaturel et d'extraordinaire. Et c'est surnaturel dans tous les cas si tu agis de cette manière-là. Dieu va se manifester au travers de toi. Dieu va se manifester au travers de toi, dans son amour, dans sa richesse, dans sa grâce, pour édifier harmonieusement son Église et pour appeler de nouvelles personnes à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça vaut la peine d'y réfléchir et je t'invite à le faire maintenant, quelques instants.